Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour nos conférences pratiques dentaires. Alors ce soir, au lendemain de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, on va évoquer une conférence qui est complètement dans le thème, puisque le but est d'améliorer l'hygiène bucco-dentaire par l'intermédiaire donc d'un traitement Invisalign, puisque notre conférence est en collaboration avec notre partenaire Align. Donc on va en effet voir qu'il n'y a pas qu'un seul intérêt esthétique, hein, mais que l'alignement peut aussi permettre de mieux nettoyer, d'avoir aussi un meilleur parodonte, et puis aussi dans le cas d'une réhabilitation prothétique, de diminuer la taille et de préserver les tissus dentaires. Donc pour cela, on a fait appel au docteur Mathieu Bénichoux, qui est un omnipraticien à Toulouse. Je vais lui laisser la parole. Et puis, avant, je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions en tapant sur l'icône QR qui se situe en bas de votre écran et on y répondra à la fin de la séance. Voilà, Mathieu, je te passe la parole.
Parfait, bonsoir à tous. Alors, je vais commencer par partager mon écran, comme ça on va pouvoir se mettre bien dans le bain de... notre conférence de ce soir. Donc, le but de la conférence de ce soir, en fait, de la conférence, de l'intervention de ce soir, ça va être principalement de venir voir si l'alignement est l'alignement dentaire, pas aligneur ou l'alignement tout simplement, mais là on est là pour parler d'aligneur, mais l'alignement tout simplement, comment se met cet alignement au service de l'hygiène bucco-dentaire. Alors, tu en as parlé dans ton intervention, dans ton préambule, que ce soit déjà au niveau de la santé parodontale ou que ce soit au niveau de l'hygiène bucco-dentaire, et c'est-à-dire de son maintien de cette hygiène-là. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est l'hygiène bucco-dentaire? Est-ce qu'il y a une définition? Alors, regarde, parce que quand on parle à un praticien, un omnipraticien, on va lui demander qu'est-ce que c'est pour toi l'hygiène bucco-dentaire? On n'a pas vraiment de définition en fonction de chacun. De sa spécialité ou de son domaine d'expertise, on va chacun avoir une propre définition. Alors, on va regarder, l'OMS définit la santé bucco-dentaire comme l'absence de douleur buccale ou faciale, d'accord, de cancer buccal ou pharyngé, bon là c'est dans les cas les plus extrêmes, d'infection ou de lésion buccale, parodontopathie, affection donc touchant les gencives, le déchaussement et la perte des dents et autres maladies et troubles, incluant donc les maladies carieuses. Et c'est ce qui va nous impacter, nous, les omnipraticiens, en fait. Les patients, quand ils viennent chez nous, ils viennent pour deux raisons principales. Une raison principale, c'est souvent la douleur. D'accord. Et la deuxième, c'est souvent qu'ils ont vu des messages de prévention pour dire je préviens l'arrivée d'une problématique. Donc, soit ils rentrent dans notre cabinet parce qu'ils ont mal, soit ils rentrent dans le cabinet parce qu'ils ont peur qu'un jour ils aient mal. Donc, cette hygiène bucco-dentaire, elle est au centre de nos préoccupations, nous, en tant que praticiens. Et on va regarder un petit peu, nous, en tant que praticiens, ce qui nous guide dans notre thérapeutique, en fait, c'est le gradient thérapeutique. On en parle très régulièrement dans l'ensemble des formations. Si vous arrivez de faire des formations sur le collage, on va vous parler du gradient thérapeutique. Vous faites une formation sur les implants, on vous parle du gradient thérapeutique. Vous faites une formation sur la prothèse, on vous parle du gradient thérapeutique. Il y a toutes les choses. Mais ce gradient thérapeutique, à quoi il sert? En fait, il nous permet de venir driver, de venir guider nos thérapeutiques pour être le plus minimalement invasif possible et de préserver au maximum les tissus. Donc, on va avoir une gradation de la gauche vers la droite, hein, selon la frise. Et ce gradient thérapeutique, en fait, on a à gauche de la frise tout ce qui va être le plus minimalement invasif, donc la prévention étant totalement minimalement invasif, donc on ne va pas venir touché à l'organe dentaire, jusqu'à l'implant, c'est-à-dire l'extraction de la dent et le remplacement de la dent par un implant. Et ce qu'on voit, c'est que dans la partie gauche, la prévention, la prophylaxie et l'orthodontie sont quasiment sur la même ligne. C'est-à-dire que quand on dit l'alignement au service de l'hygiène bucco-dentaire, en fait, ça serait presque un pléonasme, puisque l'hygiène bucco-dentaire, la prévention, la prophylaxie, dans ce gradient thérapeutique, est au même niveau que l'alignement lui-même. Donc, on comprend bien que dans la notion de gradient, on a cette hygiène bucco-dentaire, ce maintien de l'hygiène bucco-dentaire qui est intriquée dans le fait que les dents soient alignées. Et si elles sont alignées, forcément, peut-être un peu plus propres et forcément un peu moins soumises à des pathologies qui nous amèneront à aller vers la partie de droite de ce gradient thérapeutique. Parce qu'à partir du moment où il y a une pathologie dentaire, on arrive sur des phases de ce gradient thérapeutique qui sont beaucoup plus délabrantes. Soins conservateurs pour les moins délabrants, parodontopathie, là on commence vraiment à toucher un petit peu, même parfois de passer de parodontopathie à implant très rapidement, chirurgie, endodontie, prothèse, tout ça c'est la suite d'une prévention, d'une prophylaxie moins bien menée ou mal menée ou pas suivie. Alors, on va faire un petit peu de revue de la littérature. Alors, l'idée ce soir, c'est pas de se prendre la tête sur la revue de la littérature et telle étude et ceci et cela. C'est de voir un petit peu ce qui se fait, d'ouvrir notre esprit un petit peu au monde extérieur, de regarder ce qui se passe. Alors, on a une première étude sur, vous allez voir, on va passer par les cliniques aussi, hein, ne vous inquiétez pas. On a une première étude qui nous parle de l'association entre la malposition des dents et les problèmes parodontaux. Et sur cette étude, on va voir que les dents mal alignées, alors c'est le titre, hein, mal alignées, il faudrait qu'on puisse définir à partir de quel moment les dents sont mal alignées, hein, puisque c'est le biais de l'étude, mais en tout cas, les dents mal alignées affectent négativement le parodonte. Et ça affecte négativement le parodonte, et ça a pour conséquence d'augmenter le risque de maladie parodontale, puisque c'est quand même le parodonte qui est affecté, le parodonte qui est le tissu de soutien de la dent. Donc si la dent, elle est mal soutenue, ben, elle finira un jour par peut-être plus être là, d'accord ? La difficulté qu'on a aussi quand il y a des espaces ou qu'il y a une maladie parodontale ou que les dents sont mal positionnées à enlever la plaque et les bactéries qui, du coup, vont engager une pathologie parodontale plus importante et créant, du coup, des gencives inflammatoires, des tissus mous qui jouent moins leur rôle, des récessions gingivales et, au final, une perte osseuse pouvant amener à la perte de la dent. Donc, en gros, si on regarde cette étude, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit qu'en fait, la mauvaise position dentaire, elle peut nous amener tout droit, si on défile toutes les problématiques qu'il peut y avoir, à la perte de la dent, tout simplement. Et tout ça, par quoi ? Par un mauvais support parodontal. Et on sait, aujourd'hui, je sais que tous les dentistes savent que le parodonte est le tissu de soutien de la dent et que quand on fait de l'alignement, on travaille aussi le parodonte, surtout le parodonte. Alors, quand on va faire une revue de la littérature sur PubMed, je vais taper alignement invisible et parodontite. Et on voit que c'est un sujet qui, dans les 10 dernières années, va intéresser. Alors, le dernier cadran est en 2024, donc l'année ayant à peine commencé, on a moins d'études, mais forcément, parce qu'il faudrait attendre décembre 2024 pour connaître l'ensemble des études qui se sont déroulées sur l'année. Mais si on s'arrêtait en 2023, décembre 2023, on voit qu'on a une demande croissante et nombre d'études croissants qui vont traiter de ce sujet des aligneurs invisibles et de la parodontite. Donc, c'est un sujet qui est un hot topic, quoi. C'est un sujet très important et très, qui engage pas mal de recherches au niveau des laboratoires ou des universités ou de l'hôpital, parce qu'en fait, c'est la parodontite, c'est le deuxième problème après la carie. Alors, vous savez, on a voulu une génération de patients sans carie, mais en fait, il faudrait aussi avoir une génération de patients sans parodontite, parce que aujourd'hui, nos patients qui répondent bien, ou en tout cas qui arrivent bien à se brosser les dents, ils ont toujours des problèmes parodontaux. Alors, on regarde un petit peu ce qui se fait au niveau de la revue de la littérature. On a une première étude qui va nous parler la première prévention de la gingivite, de la parodontite, c'est gérer la gingivite. Ah, super, on a vu tout à l'heure qu'on gérait facilement les gingivites avec des dents alignées, ou en tout cas qu'on les gérait beaucoup moins bien quand elles n'étaient pas bien alignées. D'accord ? Promotion de la santé et de l'hygiène à travers un bon alignement dentaire. Ça, c'est une deuxième étude. Alors, les études que je vous prends, ce n'est pas juste comme ça pour faire joli et faire une jolie diapositive. C'était des études, c'est les grosses études majeures, les plus citées dans le topic, dans le sujet aligneur invisible et parodontite. Donc, on est vraiment sur des études d'ancrage sur le sujet parodontite, aligneur et hygiène bucco-dentaire. Donc, c'est vraiment les études majeures. Utilisation de la brossette interdentaire en prévention d'une maladie parodontale. Et oui, Comment est-ce qu'on peut passer une brossette interdentaire entre des dents qui ne sont pas alignées, c'est-à-dire où la brossette ne passe pas, ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y a une relation entre la gestion et le passage du fil dentaire et la présence de caries chez l'adulte? Et enfin, prévention et contrôle des maladies parodontales et des caries, le passage des brossettes interdentaires. Donc tout ça nous amène à quoi? À l'hygiène, le soin que va pouvoir apporter le patient chez lui, une fois rentré chez lui. Comment nous, les praticiens, on va mettre une thérapeutique à destination du patient pour que le patient, une fois chez lui, puisse prévenir de l'arrivée des premières pathologies, c'est-à-dire la gingivite, les maladies parodontales, pour éviter d'arriver dans des phases du gradient thérapeutique qui soient très délabrantes. Quand on regarde maintenant parodontite et maladies systémiques, je ne vous apprends rien, je ne vous apprends rien sur ça, on voit qu'il y a une association entre les maladies parodontales et toute une pléthore de maladies systémiques. Complications post-opératoires, en hôpital, après des procédures chirurgicales, l'association qu'il peut y avoir avec une parodontite. Augmentation du risque de la polyarthrite rhumatoïde, une revue systématique de la littérature, mais l'idée, ce n'est pas de rentrer dans le détail de l'étude, mais on voit quand même que cette parodontite, elle occupe le centre, non pas de notre univers de dentiste à nous, mais aussi le centre de l'univers des professions médicales qui nous entourent. Et là, le rôle du dentiste ou de l'orthodontiste quand il va venir procéder à l'alignement, il est énorme, puisque on va promouvoir une bonne santé bucco-dentaire, oui, c'est notre domaine, mais aussi éviter à notre patient des problématiques sur d'autres domaines de sa santé. Donc, on est vraiment sur une vraie action de santé publique. Alors, l'impact des aligneurs fixes, des multibagues ou des aligneurs dans le microbiome. Alors, ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il y a une différence entre aligneur et multibag? Multibag, c'est les bagues classiques, multi-attaches, quoi. Et ce qu'on regarde dans cette étude-là, qui est une étude qui date de 2022, qui est parue dans le journal d'orthopédie dentofaciale, on va regarder l'index de plaque et l'index gingival avec des multi-attaches et avec des aligneurs invisibles. Alors, multi-attaches, c'est dans l'étude là que je vous ai surligné, c'est FA, Fix Appliance. Et clear aligners pour les aligneurs invisibles. Et la conclusion, c'est que l'utilisation d'aligneurs invisibles permet d'avoir des meilleurs résultats dans les paramètres qui sont évalués, hein, l'indice de plaque, l'indice gingival, que ceux qu'on a avec les multi-attaches. Et tout ça pour dire que, en fait, avec les multi-attaches, on brosse moins bien. Alors qu'avec les aligneurs invisibles, quand on brosse bien. Donc, pendant le traitement, on va aussi, avec l'utilisation des aligneurs invisibles, promouvoir un bon maintien de la santé bucco-dentaire, un bon maintien de l'hygiène. Qu'est-ce que ça nous dit aussi? Ça nous dit qu'un bon alignement améliore la capacité qu'a le patient de se brosser et donc de maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire. Le désavantage des multi-attaches, c'est qu'en fait, avec le nombre de surfaces qu'il y a, les anfractuosités, les rugosités, les élastiques en plastique, etc., mais en fait, on n'arrive pas, malgré tout, à maintenir pendant le traitement aussi une bonne hygiène bucco-dentaire. On fait une dernière revue de la littérature, et après, on va passer à la partie clinique, hein, la vraie partie, celle qui nous intéresse. Est-ce que, il y a une. Enfin, bon, attendez, parce que j'ai un petit souci avec mon écran. Hop là, parfait. Excusez-moi. On va avoir une méta-analyse sur l'état parodontal pendant un traitement avec des aligneurs et avec une multi-attache. Et là, on regarde un peu plus globalement. Qu'est-ce qui conclut? C'est que les aligneurs permettent aussi, et c'est dans le sens de l'étude précédente, une meilleure hygiène et diminue le risque de développer des gingivites pendant les traitements orthodontiques par rapport aux multi-attaches. Alors, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'en fait, l'aligneur invisible, au-delà du résultat qu'il va nous permettre d'avoir dans la promotion de l'hygiène bucco-dentaire, va aussi, pendant le traitement, nous permettre de maintenir une hygiène bucco-dentaire correcte, plus correcte par rapport aux multi-attaches. Alors, je ne suis pas là pour désinguer le multi-attache, pas du tout, hein. Il y a des indications du multi-attache et des indications des aligneurs invisibles, mais disons que quand on regarde l'aspect parodontal uniquement, l'aligneur invisible prend tout son sens. Alors, on retrouve ce premier patient. Alors, ce premier patient vient Et lui, il a une demande qui est simple lors de la consultation. Il veut des facettes, point. Il vient avec une volonté. Je veux des facettes. J'ai vu sur Instagram que je peux avoir des dents super nickel comme ça. Donc. Bon, manque de bol, pour lui, ça ne sera pas Instagram, de suite en tout cas. D'accord? Il va falloir passer par une petite étape. Alors, je vous présente les empreintes. Les empreintes de ce patient. Alors, on a une, pour ceux qui font un petit peu d'orthodontie, mais on va le décrire très rapidement. On a une tendance à la classe 3, c'est-à-dire avoir une mandibule un petit peu plus avancée par rapport au maxillaire. On a des espaces importants, au maxillaire comme à la mandibule. On a des dents qui sont relativement divergentes, sûrement poussées par une langue hypertonique, hein, puisqu'on imagine bien que quelque part derrière, il y a quelqu'un qui est venu pousser ses dents vers l'avant. En résultant de tout ça, on a un articulé inversé, donc la mandibule qui est tellement en avant qu'elle va venir recouvrir l'arcade maxillaire. Alors là, impossible pour n'importe quel omnipraticien de venir placer des facettes sur cette situation-là. Ou alors, on se retrouverait avec des dents tellement énormes qu'ils ressemblaient à un éléphant et du coup, on n'aurait pas le résultat escompté pour notre patient qui veut ressembler à ce qu'il a vu sur son smartphone. Alors, on regarde un petit peu les espacements qu'on a. Alors, ça, c'est le cas où on a 9 mm d'espacement au maxillaire, 9 mm d'espacement à la mandibule. Donc, on voit qu'on ne peut pas résoudre seul, en tant qu'omni, ce problème de ce patient, le problème de ce patient à l'aide de facettes. Alors là, on a certaines sociétés commerciales qui vont nous permettre de combiner l'alignement dentaire avec les restaurations, tu en parlais tout à l'heure dans ton préambule, les restaurations prothétiques, et de, par cette combinaison-là, être le plus minimalement invasif. Je vous rappelle que ce qui dicte nos thérapeutiques, c'est le gradient thérapeutique. Donc, on est pile dans le gradient thérapeutique. Pourquoi ? On veut faire l'orthodontie, on se rappelle, c'est la première marche du gradient thérapeutique, et ensuite, quand on va venir préparer, on veut être le plus minimalement invasif possible, c'est-à-dire le plus à gauche, de se rapprocher le plus de l'orthodontie. Donc, on va pouvoir, sur donc les photos du patient, venir réaliser ce qu'on appelle un smile design. Le smile design, c'est une vision de notre patient et de l'architecture des dents qu'on va lui proposer en fin de traitement, uniquement en deux dimensions. On va pouvoir régler la ligne bipupillaire, la largeur intercanine, on va pouvoir augmenter la ligne gingivale, augmenter également ou modifier la ligne du sourire, c'est ce que je fais ici au niveau du bord incisif. Une fois que j'ai fait ça, je vais avoir des dents qui vont apparaître, un dessin de dents quoi, hein, qui va me permettre de là travailler plutôt les proportions. Et vous voyez que quand je le bouge, ici, on va pouvoir avoir des rapports de largeur entre la hauteur des centrales, par exemple, largeur-hauteur, largeur et entre les latérales et les centrales, le rapport de largeur entre les canines et les latérales. Tout ça pour me permettre quoi? Et d'avoir un sourire harmonieux. Une fois que j'ai validé l'architecture globale du sourire que je veux, je vais me retrouver sur ma planification orthodontique. Alors là, c'est relativement simple à comprendre. On se retrouve face à un logiciel où j'ai l'empreinte de mon patient, les dents où elles se situent, et je vais venir y ajouter des restaurations. Les restaurations, quand je clique sur restauration, elles apparaissent ici en bleu ciel. Et dans cette interface-là, je vais pouvoir bouger soit les restaurations, c'est-à-dire si elles ne me vont pas dans leur position, soit les dents pour qu'elles puissent s'intégrer au projet prothétique. Pour ceux qui font un peu d'implanto, c'est comme positionner un implant dans de l'os juste comme ça, et puis après on se pose la question de « Ah mais oui, mais comment on met la couronne ?» C'était pas très orienté. Ou alors venir faire une projection implantaire avec un projet prothétique et venir positionner son implant par rapport au projet prothétique. C'est la même chose pour l'orthodontie ici. On valide un projet prothétique, les facettes de ce patient, et on va venir positionner nos dents dans une position idéale, dans une position la plus minimalement invasive pour que nos restaurations préservent au maximum l'organe dentaire. Alors, je peux choisir, et là, on rentre un petit peu dans le sujet de l'alignement, hein. On peut choisir d'ingraisser, dégraisser la dent ou de modifier, on va le voir juste après, la position d'une restauration sur cette incisive latérale. Je trouve qu'elle est bien positionnée, l'incisive latérale, mais que la restauration n'est pas comme il faut. Donc, je vais pouvoir venir travailler ma petite restauration. Vous avez vu, c'est très intuitif comme logiciel, hein, comme interface. Je viens décaler en médial ma restauration et puis la restauration se décale en médial. Je regarde un petit peu comment ça se fait au niveau de la vue occlusale. Je vais bien décaler mes restaurations médianes, faire des petites rotations. C'est relativement facile. Il ne se passe absolument rien sur le patient. Pour l'instant, je suis juste en phase de réflexion. Qu'est-ce que je peux proposer à mon patient? Est-ce que je vais lui rendre service? Est-ce que l'alignement va lui rendre service? Bon, la réponse est oui, au final, quand même. Mais comment je vais lui proposer? Comment je vais aussi lui expliquer que lui qui était venu pour des facettes initialement, mais il va falloir faire peut-être un peu plus que des facettes. Et pourquoi? D'accord? Et ça, c'est facilement gérable et facilement faisable par un omnipraticien. Vous voyez, là, je viens bouger mes dents à l'intérieur des restaurations. Nous voilà donc avec un projet prothétique, orthodontique, orthodontico-prothétique, d'accord? Et j'ai un outil qui s'appelle l'outil MAS. MAS, c'est pour la réduction de masse. Et je vois qu'en passant ma souris, j'ai des réductions, bah, par exemple là, 0,5 mm au niveau du collet de la dent numéro 21. Et je vous l'ai dit, moi, je vis, je rêve gradient thérapeutique. Limite, je l'ai tatoué quelque part sur mon corps. Donc, gradient thérapeutique, je ne peux pas laisser 0,5 mm au niveau du collet d'une dent être délabré comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir bouger ma dent à l'intérieur de cette restauration. Donc, j'active l'outil réduction et je vais appliquer un mouvement radiculaire au niveau de cette dent-là pour pouvoir réduire, hop là, tac, je passe ici, on va y arriver, pour pouvoir réduire ces fameux 0,5 mm. Vous voyez qu'en appliquant un petit peu de... C'est un mouvement de torque, pour ceux qui ont l'habitude de faire un peu d'orthodontie. En appliquant un petit mouvement radiculaire, ben je supprime cette éventuelle réduction amélaire que j'aurais pu avoir si je n'avais pas anticipé ça avec un projet prothétique. D'accord? Je vous le remontre ici. Clac. Et là, j'ai ma restauration qui englobe complètement ma dent. Et donc voilà, me voilà avec mon patient en train de lui dire, bon, ben maintenant... Je peux vous traiter, oui. Oui, vous pouvez avoir des facettes, mais pas tout de suite. Il va falloir d'abord faire un petit traitement d'alignement pour vous amener à ce résultat-là. Est-ce que ce sourire vous conviendrait? Oui. Alors, s'il vous convient, il va falloir faire un alignement de X gouttières. On va le voir juste après. Et ensuite, on pourra mettre les facettes. Petite curiosité, je me suis dit, tiens, une fois qu'on a validé ça, est-ce que ça ne serait pas intéressant de voir qu'est-ce qu'on aurait dû enlever comme masse de dents? Si je n'avais pas fait appel à l'alignement. Et là, on regarde, petite réduction, vous imaginez, j'ai plus de 2 mm au niveau d'un bord incisif, c'est-à-dire en fait, cette dent numéro 11 et cette dent 21, je fais un traitement de dévitalisation, un île-lécor et une couronne, alors que la dent, à la base, elle n'avait absolument rien. D'accord? Donc, on voit vraiment là l'apport intéressant pour nous, les omnipraticiens, d'utiliser les aligneurs invisibles au quotidien pour faciliter nos thérapeutiques, et faciliter surtout ce pourquoi nous, les omnipraticiens, on est formés, à faire de la prothèse. D'accord? Et ça, on utilise les aligneurs invisibles comme un outil qui nous permet de faciliter notre prothèse. Alors, ce patient, on revient à notre petit patient, en 19 aligneurs à la mandibule et en 13 aligneurs au maxillaire, 13 aligneurs actifs au maxillaire, hein, on va pouvoir fermer ces espaces et se retrouver dans une situation qui va être tout à fait favorable à la réalisation de facettes. On retrouve notre patient juste avant. Alors là, on a la ligne numéro 15. Donc là, la mandibule n'a pas complètement fini de se fermer, mais ça me permet déjà de préparer mon travail au niveau du maxillaire. J'isole le maxillaire. Je vais y venir appliquer un wax-up. Et vous voyez déjà, on commence à avoir un très joli bord gingival qui entoure le collet de nos dents. Je prépare mes dents donc, pour recevoir les facettes. Et vous voyez que là encore, on est extrêmement minimalement invasif hein, pour des préparations de facettes. Difficulté particulière pour ces dents-là, quand il y a des diastèmes, la préparation de facettes doit se faire un peu plus apicale pour que le prothésiste puisse manager comme il faut le profil d'émergence des facettes. Si je suis dans une situation idéale pour le positionnement des facettes, je suis aussi dans une situation idéale pour l'isolation, pour la pose de ma digue. Très facile de poser une digue sur des dents qui sont alignées, propres et faciles. Et le parodonte en est encore moins atteint quand on pose la digue. Faire notre etching, notre préparation de collage, et voilà notre patient en fin de traitement. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit déjà une facilité qu'il a de maintenir l'hygiène bucco-dentaire, parce qu'il a des dents alignées. On rétablit une fonction, occlusale, mais on rétablit une fonction biologique aussi, parce que là, on rapproche les dents, on va avoir des papilles qui vont venir s'insérer entre chacune de nos préparations, de nos restaurations. Et on regarde maintenant la situation initiale que je vous avais pas montrée. C'était surtout regarder la difficulté en bas qu'il y avait à maintenir une hygiène chez le même patient. Respirateur buccal, du coup, pas de difficulté de venir brosser sur ses dents complètement écartées. Et normal, il y a des espaces partout, il faut venir brosser entre, mais la tête de la brosse, ça n'en passe pas. Gingivite à gogo. Et là, avec des facettes et un alignement, on se retrouve avec quoi? Avec un maintien et une facilité du maintien de l'hygiène par notre patient. Extraordinaire. Et voilà notre patient donc en début et en fin de traitement. Pour les puristes qui me diront que les milieux ne sont pas alignés, je le sais. Le patient était tellement content qu'il n'avait pas voulu, il n'a pas voulu faire les quelques petites gouttières qui m'auraient permis d'aligner les milieux. Moi, ça me tenait à cœur. Lui, plus du tout. Il était très content comme ça. On ne va pas l'enquiquiner pour ces petits détails-là, mais j'anticipe déjà les questions. Pour ce cas-là, alors ce cas-là, je vous ai montré directement la fin. C'est un petit peu le spoiler. Comment on passe d'une situation comme celle-ci à celle que je viens de vous montrer? La même chose. Vous voyez qu'ici, chez cette patiente, si elle continue à avoir une position comme ça, de dent, on va se retrouver avec une récession sur sa dent numéro 12 extrêmement importante, peut-être un jour même perdre cette dent numéro 12, sa dent numéro 13 complètement lingualée en articulé inversé fait qu'elle n'a pas de fonction au niveau de son guide canin, on a des risques parodontaux importants, on a des risques de maintien des dents sur l'arcade qui sont majorés parce que les risques parodontaux sont majorés. Et donc, on a cette patiente qui vient de nous voir et qui nous dit « Moi aussi, je veux des facettes. » Elle est impossible de faire des facettes sur cette situation-là. Pourquoi on a une dent qui est tellement vestibulée ici sur la dent numéro 12 que ce n'est pas possible? Alors, on va faire une planification numérique, une prévision numérique. Je vous passe les détails de l'alignement puisque le but n'est pas là de vous apprendre à faire de l'alignement ce soir. Le but est de vous montrer comment on utilise cet alignement au service de l'hygiène bucco-dentaire de nos patients. Résultat en fin de traitement, prédictible à 100%. En utilisant les bons outils, vous êtes prédictible. Et je vais venir faire ce qu'on appelle un smile design par-dessus ce résultat-là pour pouvoir venir mettre mes facettes. D'accord ? Une fois que j'ai ça, je me retrouve avec trois choses. Hop, si ça peut bien passer. On a notre smile design, notre fin de traitement empreinte en fin de traitement et notre wax-up numérique. Et maintenant que j'ai tout ça, je vais passer à la phase de réalisation. Quand je regarde la phase de réalisation, je vois que j'ai besoin d'une petite gingivectomie. Pareil, numériquement, je vais pouvoir éditer un guide de gingivectomie qui va me permettre tout simplement de venir faire le contour et de bien préparer le pourtour gingival. Donc, je retrouve ma patiente que je viens de vous présenter là 20 gouttières plus tard. On voit que la santé gingivale, ça c'est la patiente juste quand on lui enlève les gouttières, je viens de lui enlever les taquets et tout ça. Donc, au niveau santé gingivale, on est parfait. D'accord ? On est vraiment nickel. On a vraiment un bon outil, les aligneurs invisibles, qu'on a mis au service de cette patiente pour sa restauration prothétique, hein, puisque c'est pour ça qu'en prod qu'on est là. Mais on a permis aussi de restaurer une hygiène du coup dentaire parfaite. Là, il n'y a pas un seul endroit où il y a une gingivite ou il y a quoi que ce soit. Elle arrive bien à maintenir son hygiène du coup dentaire. On va isoler notre arcade maxillaire. Il y a eu un composite qui a été fait il y a longtemps sur sa dent numéro 21. Elle était tombée quand elle était petite. On va mettre notre petit guide de gingivectomie, faire une gingivectomie tout simple, avec un bistouri électrique. L'espace biologique était largement conservé par rapport à l'os qui est au-dessus, donc pas besoin de lever un lambeau ou quoi que ce soit. On va venir y appliquer notre fameux wax-up, faire des pénétrations contrôlées. Alors moi, quand je travaille pour mes facettes, je marque toujours le fond des préparations avec un petit critérium. Comme ça, quand j'enlève mon wax-up, je sais à quelle profondeur je dois m'arrêter. D'accord ? Et je viens préparer mes facettes ou mes préparations coronopériphériques, en l'occurrence pour la dent 21. Hein, la dent avait tellement été cassée quand elle était... Quand on a déposé le composite, on n'a pas eu d'autre choix que de faire une préparation coronopériphérique. Mais ce n'est pas un gros mot, hein. Préparation coronopériphérique. Il y a parfois des situations où ça s'impose. Je fais mon empreinte. Je remercie toujours et je présente toujours le travail de mon laboratoire parce que le laboratoire fait un travail extraordinaire quand même dans la réalisation de nos travaux. C'est un travail en binôme avec notre laboratoire. Par mon travail, je mets une situation prothétique dans laquelle ils peuvent exceller dans la réalisation des prothèses par la suite. En voilà tout le travail de macro-géographie qui a été fait par le laboratoire. Et en fait, je les mets dans une situation favorable et ils me mettent dans une situation de fin de traitement ultra favorable, ce qui me permet, moi, déjà là, je peux diguer beaucoup plus facilement, hein, avec des dents alignées. Vous imaginez, si j'avais dû diguer là tout à l'heure avec l'articulé inversé d'un côté, le téflon, il aurait été complètement à l'ouest, la dent totalement vestibulée, j'aurais dézingué tout le monde et en fait, j'aurais pas pu diguer du tout. Donc là, on est quand même dans une situation ultra favorable. Me voilà après la guerre, c'est-à-dire après le collage. Et voilà, en fin de traitement, ma petite patiente, donc qui retrouve, ben, ce que je vous montrais tout à l'heure, hein, un état gingival, une santé bucco-dentaire parfaite, facile surtout à maintenir. D'accord? Parce que là, on comprend que le patient, il peut passer le fil dentaire, il peut passer les brossettes, il peut passer tout ce qu'il veut. D'accord? Ben, pas tout ce qu'il veut, hein, pour maintenir l'hygiène, attention. Une petite revue de la littérature sur le type de force qu'on peut appliquer pendant le traitement. On a une étude in vivo qui nous parle de la force optimale pour le mouvement et pour obtenir l'efficacité et pour être resté parodonte friendly, parodonte amical lorsqu'on fait nos aligneurs. On a cette étude qui est particulièrement intéressante. Je vais vous la passer rapidement parce que vous allez voir, c'est un peu technique, mais l'idée, c'est juste de voir. Le titre de l'étude, c'est le déplacement optimal en orthodontie avec des aligneurs, jusque-là, très bien, en cas d'atteinte moyenne, modérée ou sévère du parodonte. D'accord? Et on va regarder, ils vont regarder dans cette étude, et moi, je vais vous en donner les résultats, par élément fini. Donc, élément fini, c'est un type d'étude qui nous permet de voir où s'appliquent les forces, tout simplement. Par élément fini, de voir est-ce qu'il y a une différence de point d'application en fonction du type de parodonte. Dans cette étude, on va voir donc des parodontites modérées, étape 1, ils appellent ça stage 1, des parodontites moyennes et des parodontites sévères, et on va regarder où s'appliquent les forces. Donc, tout simplement, ils regardent, quand on déplace les dents, quelle est la quantité de mouvement que peut absorber un parodonte en fonction de son atteinte. Okay? Et on voit que le déplacement des dents de 0,10, 0,15, 0,18, 0,20, 0,25, va pouvoir être fait en fonction de chacun. La conclusion de tout ça, pour vous faire très simple, c'est que dans les cas de parodontite importante, on va pouvoir déplacer les dents de 0,10, 0,15 mm par étape d'aligneur. D'accord? Et 0,10, 0,15, 0 jusqu'à 0,18 même par étape d'aligneur, c'est exactement ce qui vous est proposé par les systèmes commerciaux, et aujourd'hui, c'est la société Align qui nous réunit, hein, mais par les systèmes commerciaux, dans le découpage de chaque étape par lesquelles vont passer les dents de votre patient d'une situation initiale à une situation finale. La conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que l'aligneur va vous permettre de séquencer très facilement et sans prendre de risques parodontaux, parce que je comprends aussi quand un praticien, moi-même pratiquant l'aligneur, j'ai pas envie de commencer à bouger des dents et puis d'un coup le patient il arrive avec sa dent dans la main, d'accord? Donc il faut que j'utilise un outil qui me permette de venir bouger les dents de manière assez respectueuse du parodonte, optimale pour le parodonte, et ce, quel que soit l'état parodontal résiduel du patient, après bien sûr qu'il ait traité sa parodontite. Et c'est le cas de notre patient ici. On retrouve donc ce patient, ça fait 6 mois qu'on le suit pour la paro. Quand il est venu la première fois chez nous, il venait de perdre son incisive centrale, tout seul, comme ça. Et me dit, voilà, j'ai 50 ans, je veux reprendre en main ma vie, tout ça. Bon. Ça fait 6 mois qu'on le soigne en paro, et ça fait 6 mois qu'à chaque fois qu'on le voit, pour tous les petits récolts qu'on fait, on lui dit, mais vous n'arrivez pas à enlever le tartre, là, entre les deux incisives, là, ce n'est pas un problème pour vous. Il dit, mais je n'y arrive pas, j'arrive à brosser. On voit très bien que là, il arrive à maintenir une hygiène qui est relativement correcte, quoi, à peu ou prou quelque chose près, mais entre ces deux incisives centrales et du coup latérales, puisqu'il avait perdu une centrale, il n'arrive pas, et il y a toujours du tartre, toujours du tartre, toujours du tartre. Bon. Quoi qu'il arrive, ce patient-là, bon, il enlève un petit peu son tartre à chaque fois, il va falloir trouver une solution pour lui. Il me dit, moi, j'en peux plus de mes dents, j'ai des anciennes restaurations, tout ça. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Je vous le donne en 1000, on va partir sur de l'alignement. Ça tombe bien, c'est le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Alors, on retrouve notre patient ici avec, voilà la dynamique qu'on va mettre au niveau de son arcade mandibulaire. C'est le résultat d'une discussion avec le patient. On avait envisagé soit de faire une restauration collée qui vienne s'appliquer sur les deux incisives et remplacer l'incisive manquante. Après évaluation parodontale, on s'est dit qu'en fait, ça allait être plutôt un nid à cracra, que, vu qu'il avait déjà du mal à venir nettoyer alors qu'il n'y avait rien. Bon, on a discuté avec lui et on a pris la décision de fermer cet espace, même si c'est un peu plus disgracieux, de venir fermer cet espace. Et c'est là où l'étude que je vous ai présentée prend tout son sens. Et il va falloir que je déplace des dents dans un parodonte réduit. Est-ce que l'utilisation des aligneurs invisibles sur un parodonte réduit est possible? Oui, je viens de voir que jusqu'à 0,18 mm, et c'est ce que propose la société Invisalign avec laquelle j'ai travaillé là sur ce cas-là, je peux travailler les dents parodontalement atteinte, à raison que bien sûr la parodontie soit traitée, hein, d'accord, sans risque de léser le parodonte, et je suis toujours parodont friendly, et voilà. Donc là, je me retrouve donc avec une arcade mandibulaire qui se ferme, j'ai mes positions de mes futures dents, parce que vous avez vu qu'il y avait des dents qui étaient manquantes dans les secteurs 3 et 4, donc de mes futures couronnes implantaires. On regarde ici un petit peu ce qui va se passer, voilà le mouvement que ça fait. Et là, on va demander à la société de séquencer au maximum, donc là, j'avais 20 gouttières, d'aller jusqu'à 20 gouttières pour venir diminuer le mouvement qu'il va y avoir entre chaque aligneur. C'est ça ce qu'on appelle le staging, c'est-à-dire chaque étape, à quelle quantité de mouvement elle demande chaque étape de faire. Pardon, je reprends. Quelle quantité de mouvement est demandée à chaque étape de l'aligneur. D'accord? Donc, on voit ici un parodonte qui a l'air de bien répondre, mais ça reste une simulation. À l'arcade maxillaire, je viens rabattre un petit peu lingot versé et reformer l'arcade maxillaire et lingot versé ma dent numéro 21. Et voilà mon patient en fin de traitement. Une fois les facettes posées, je vous ai épargné la phase de facettes puisqu'on en a parlé sur deux cas précédemment. Les implants ont été posés. Et vous voyez que mon patient, qu'est-ce qu'il arrive à faire? Il arrive beaucoup mieux à venir maintenir l'hygiène entre les deux incisives du bas, à maintenir l'hygiène globalement sur l'ensemble de son arcade, puisqu'on a restauré une fonction occlusale, une fonction biologique. On a restauré aussi son esthétique. Et tout ça grâce à quoi? Grâce à un outil central qui est parfois oublié des omnipraticiens, parfois lésinés par les omnipraticiens parce que ça fait faire des démarches, il faut envoyer à l'orthodontiste, et puis il a des délais, et puis en fait le patient il a envie d'une réponse de suite, etc. Donc en fait, ce qu'il faut retenir de ce soir, c'est que retrouver une position physiologique des dents permet de maintenir une meilleure hygiène. Ça, j'espère que vous l'avez compris. Les aligneurs, ils sont une alternative efficace pour traiter les malpositions dentaires, y compris chez des patients dont la parodontite a été traitée et qui se retrouve avec un parodonte réduit. Et les aligneurs invisibles sont un outil plus qu'efficace, je dirais primordial, et ça devrait être la première chose qu'on apprend quand on arrive à la fac, en fait. C'est comment mettre les dents dans une position biologiquement compatible. Donc, c'est un outil ultra efficace à disposition de l'omnipraticien, et je vous remercie de votre attention. Maintenant, on va passer un petit peu aux questions, puisque j'avais prévu une intervention de 40 minutes, histoire de vous laisser la possibilité d'interagir avec nous sur les questions que vous auriez sur ce sujet-là.
Merci Mathieu. Alors oui, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, pour qu'on puisse vous apporter une réponse. Est-ce que, moi j'ai une question par rapport au dernier cas que tu as présenté, où en fait l'écartement entre les deux incisives était important et qu'on voit bien qu'il n'arrive pas à bien nettoyer et qu'il reste du tartre, malgré, je suppose, la prescription d'une grosse brossette interdentaire. Est-ce que c'est justement parce que les dents, elles se touchent pas, qu'on a plus de difficultés à nettoyer?
Ouais, je pense qu'en fait, chez ce patient-là, même s'il passait la brossette, et avec la meilleure volonté, parce que ce patient, franchement, il est adorable. Hein. Tu vois bien, il suit la thérapeutique, il partait d'une parodontite énorme, et malgré les aligneurs, malgré tout. Et en fait, je pense que simplement l'angulation et la position des dents, du fait qu'elles soient écartées, mais pas trop, ne permet pas de passer la brosse à dents, ne permet pas de bien passer la brossette. Et donc, on repart sur les engrammes du patient. Ouais. N'arrive pas, il n'y arrive pas, et puis du coup, à un moment, ça arrive avec du petit tartre. Mais tu vois, là, on l'a pas vu depuis 2 mois, et il y a un petit peu de tartre qui réapparaît. Mais par contre, dans les photos de fin de traitement, je vous les montre juste là, je te la montre juste ici, dans les photos de fin de traitement, ces photos-là sont prises 3 mois après la pose des facettes. D'accord? Et là, on voit que le patient, il y arrive parfaitement. Là, la brossette très large passe bien et frictionne comme il faut au niveau des parois latérales de ces deux incisives, ce qui n'arrive pas à faire dans le cas précédent. Et autre chose qui est très intéressante, c'est que si tu regardes au niveau de la 41-42, okay, quand on va venir ici en fin de traitement, là, la papille au niveau de la 41-42, on l'a conservée. On a même la sensation qu'elle est un petit peu remontée. Alors, elle n'est pas vraiment remontée, c'est parce qu'on a fait une ingression relative, mais la papille est restée au même niveau. Donc, je pense que même avec le temps, l'évolution du temps, si ce patient brosse bien, on va retrouver, pas un niveau papillaire parfait, mais on va retrouver une très, très bonne hygiène et un très beau niveau osseux, quoi.
OK. Bah écoute, tu as dû être suffisamment clair pour tout le monde parce qu'il n'y a pas de questions.
Alors, ils sont tous partis à l'apéro.
J'en ai une de mon côté.
Je ne t'ai pas présenté, mais il y avait le docteur Safa Dadi qui travaille pour la société Align. Donc, on t'écoute.
Alors, déjà, merci Mathieu pour la présentation. Et je me demandais comment tu gérais la communication avec les patients et notamment le patient qui rentre en voulant sortir avec des facettes faites dans la semaine, qui se retrouve avec un traitement qui est plus lent et on comprend bien l'intérêt de le faire. Mais comment tu gères cette communication avec les patients et comment tu leur expliques ton plan de traitement?
En fait, c'est assez simple. En tout cas, j'utilise des mots relativement simples. Je leur explique que ni plus ni moins, leurs dents, c'est comme leurs doigts ou leurs pieds, d'accord? Et que de tailler une dent, c'est comme si je leur taillais comme ça, un doigt ou un pied. Là, tout de suite, l'histoire, c'est plus la même. Et je lui dis, si je taille beaucoup la dent, c'est comme si je taillais beaucoup le doigt. Et si je ne taille pas du tout le doigt, on est beaucoup mieux. Donc là, il comprend un petit peu. Mais je lui dis, voilà, la situation. Et si on revient sur le patient, le premier patient là, qui avait des espacements importants, lui, je lui dis, si je ne remets pas la dent dans une bonne position, je n'aurai pas de bons résultats déjà du côté technique pour pouvoir bien coller. Ça veut dire que ça va tomber régulièrement parce que je ne serai pas sur les mailles. Et la deuxième argument que je lui donne, c'est que plus on se rapproche de ce que fait la nature, plus on est esthétique. D'accord? Plus on va pouvoir avoir quelque chose d'esthétique. Et si jamais, et c'était le cas pour ce patient en fait, il adhère pas trop à mon idée, ben là c'est tout simple. Que j'ai fait, je vous le montre de suite. J'ai fait juste ça. Ici, ma claque. J'ai fait ça. Et cette capture d'écran, cette capture vidéo que je vous montre, là, je les montrerai au patient, tout simplement. Je dis voilà, si vous voulez des facettes comme on a vu sur la photo précédemment, ben, je dois enlever 3 mm de votre dent. Je dois la couper complètement. D'accord? Et là, le patient, il n'est pas idiot, hein? D'accord, quand il voit ça, hein, quand tu lui montres une photo, est-ce que vous voulez ça? Il te dit oui. Et que si tu lui dis, bon, ben, si vous voulez ça, il n'y a pas de problème, mais par contre, la position de vos dents n'est pas bonne, il le comprend très bien. D'accord? Et la communication, elle passe par cette triangulation aussi entre patient, praticien et outils technologiques qu'on a à notre disposition aujourd'hui, c'est de pouvoir montrer pourquoi je fais cet alignement. Et si je ne le fais pas, ce vers quoi je tends, quoi. Et ce patient, il est jeune, hein. Il a 28 ans, et il se doute bien que si tu commences à lui proposer une dévitalisation sur une dent qu'il n'avait pas besoin initialement, c'est pas quelque chose de correct, quoi. Donc, en fait, tu prends tout simplement en lui disant, voilà, votre doigt, vous voyez le doigt, ben, c'est comme si vous me disiez, ben, moi, je veux un doigt différent, ben, je le coupe et on en fait un autre. Ah, il va te dire, non, c'est... Mais pour les doigts, ils réfléchissent facilement. Pour les dents, ils ont l'impression que c'est plus facile.
Et la simulation, tu ne la présentes pas systématiquement?
Alors, si, je la alors pas aussi détaillée que ça, d'accord? Je la présente plutôt avec juste au niveau du staging des aligneurs, c'est-à-dire cette partie ici que je vais vous montrer, comme je vous ai montré ici en dernier cas, le patient reçoit ça, en fait. Donc, il peut se regarder un petit peu sous toutes les coutures, d'accord? Je la présente, il la reçoit systématiquement. Moi, je trouve que c'est sympa de recevoir, de pouvoir se voir. Je suis à la gouttière numéro 10, j'ai envie de savoir ce qui m'attend après. Moi, si j'étais patient, j'aimerais voir un petit peu ce qui m'attend. Alors, je leur envoie par mail, mais aussi détaillé que ça, que je vous ai présenté sur le patient précédent. Ici, je ne fais pas ça pour effectivement tous les patients, parce qu'il y en a certains qui comprennent dès le premier coup et qui me disent, ah non, mais oui, j'ai bien compris, en fait. Ça fait du sens ce que vous me dites, qu'il faut que les dents soient bien positionnées pour que vous soyez le moins délabrant. Et ce qui a, alors Instagram, c'est un peu à double tranchant, mais je m'en sers Instagram, Facebook, enfin, peu importe, un réseau social, quoi. C'est un peu à double tranchant parce qu'ils voient souvent des vidéos avec les dents taillées pour des préparations coronopériphériques. Mais vous n'allez pas me faire les dents de requin. Et en fait, si on leur explique que bah, là, oui, là, je vais être obligé de faire la dent de requin. Là, clairement, si je ne fais pas l'alignement, c'est dents de requin direct. Et si, par contre, je fais de l'alignement, ben, au nez, on conserve quasiment toute la dent. J'ai juste besoin d'enlever 0,2, 0,3 mm d'épaisseur pour que le prothésiste puisse venir mettre sa facette. Mais là, le patient, il comprend de suite. Ouais, c'est quelque chose voilà, qu'il faut savoir expliquer. Il faut savoir prendre des mots très simples et leur expliquer pourquoi. Ben, nous, on est obligé d'utiliser cet outil-là, hein, de l'alignement. Et ils comprennent aussi. Hein.
Parfait.
Super. Tu as une progression. J'aime bien le rapprochement avec le doigt parce que c'est vrai qu'on y pense différemment quand c'est un autre membre autre que les dents et ça permet de faire une bonne réflexion. Bon, très bonne astuce.
Ok, très bien. Ben, écoute, en tout cas, merci. Merci pour ta franchise, ton accessibilité, ton discours. Donc, cette conférence, elle sera accessible en replay dans les 2-3 prochains jours. Et puis, ben, je te dis à une prochaine fois. Alors. Bonne soirée.
Merci pour l'invitation et puis à très bientôt.
Très bien, bonne soirée. Au revoir.
Au revoir. Bon.